Les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Joe Biden aux portes de la Maison-Blanche. Le dépouillement de la présidentielle aux États-Unis se poursuit, mais le candidat démocrate a clairement l'avantage face à Donald Trump. Le président républicain sortant veut lui barrer la route en multipliant les recours. Explication dans un instant.
Reportage aussi en Pennsylvanie où les Trumpistes font de la résistance.
Nous rejoindrons notre envoyé spécial à Philadelphie. À la une encore, le Covid-19 et un nouveau confinement en Angleterre. En France, plus de 4000 personnes se trouvent aujourd'hui en réanimation. Les soignants qui exercent eux en libéral dénoncent des équipements de protection trop chers.
Et puis la question du jour dans une dizaine de minutes, Catherine, justement, on va évoquer ces reconfinements européens. Quels sont les choix faits dans les autres pays? Je poserai la question à un biologiste directeur de recherche au CNRS, Samuel Alizon.
Le suspense encore ce matin aux États-Unis et les électeurs en sont conscients. Il faut compter toutes les voix, c'est ce que scandaient des démocrates hier soir à Philadelphie, en Pennsylvanie, inquiets des manœuvres politiques et juridiques engagées par Donald Trump. Car en gagnant des États clés comme le Wisconsin et le Michigan, en ayant un sérieux avantage en Arizona, Joe Biden se rapproche donc un peu plus de la Maison-Blanche. Il ne lui manque plus que 6 à 14 grands électeurs, suivant les médias, pour atteindre les 270 voix nécessaires dans le collège électoral. Tout se joue désormais sur la côte est des États-Unis, en Géorgie, 16 grands électeurs, en Pennsylvanie, 20 grands électeurs. C'est aussi l'État où est né Joe Biden et le camp démocrate y fonde de grands espoirs. Bonjour Jean-Marc Four.
Bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Culture à Washington. Il ne reste plus que 6 à 14 grands électeurs donc à gagner, je le disais, pour Joe Biden pour devenir le 46e président des États-Unis. Mais les dépouillements sont encore en cours. Les votes anticipés massifs détiennent peut-être la clé du scrutin.
Assez certain, ces votes anticipés sont au fil des heures effectivement en train de faire basculer en fait le scrutin et de faire tourner le vent en faveur de Joe Biden. 160 millions d'électeurs au total se sont déplacés, ce qui est un record depuis un siècle. La mobilisation du jour J avant-hier, plus de 60 millions de votants a été favorable à Donald Trump. Ces électeurs qui se moquent un peu du virus n'ont pas craint d'aller dans les bureaux de vote le jour du scrutin. À l'inverse, les 98 millions d'électeurs à avoir voté par anticipation, en particulier par la poste, sont majoritairement démocrates et le dépouillement de leur vote intervient en dernier dans plusieurs États. C'est ça qui explique le basculement progressif des résultats en faveur de Biden. Donc dans des États clés comme la Pennsylvanie, la Géorgie, l'Arizona, le dépouillement des grands centres urbains, Philadelphie, Atlanta, Phoenix, n'est pas terminé. Plus ça avance, plus ça profite à Biden. Ce qui modifie d'ailleurs un peu aussi l'analyse de sociologie électorale qu'on pouvait effectuer hier. En Géorgie, par exemple, il est probable qu'on ait eu un vote assez massif de la communauté noire, par anticipation, favorable au candidat démocrate. À l'inverse, quand même, Trump a préservé son avance au sein de l'électorat ouvrier blanc, par exemple dans l'Ohio.
Crier à la fraude, c'est donc désormais la stratégie de Donald Trump en retard donc face à Joe Biden. 214 grands électeurs pour le président républicain sortant, plus que 6 à 14 voix nécessaires pour son rival démocrate. Donald Trump veut donc multiplier les recours, recompter les voix, en invalider certaines, Jean-Marc.
Oui, c'est ça, il a engagé ou veut engager des procédures dans 3 voire 4 États, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie et peut-être Géorgie. Alors il y a des procédures de nature différente. Par exemple, dans le Wisconsin, où le dépouillement est terminé, Biden l'a emporté avec une marge de 0,6%. Et dans cet État, dès l'instant où la marge est inférieure à 1%, le recomptage est de toute façon autorisé si un candidat le sollicite. Dans le cas de la Pennsylvanie, c'est différent. Là, le dépouillement n'est pas terminé. Ce que les républicains cherchent à faire, c'est à entraver, voire empêcher le dépouillement des derniers bulletins, en particulier ceux qui ont été envoyés par la poste en début de semaine, lundi ou mardi, et qui peuvent normalement être dépouillés jusqu'à demain soir. Là, faut s'attendre à des contentieux en pagaille. Donald Trump l'avait d'ailleurs annoncé lors des derniers jours de campagne. On ne peut pas dire qu'on soit surpris. Il estime que c'est du trucage. Pas sûr quand même que ces plaintes soient jugées recevables. Il faut aussi avoir autre chose à l'esprit, hein. C'est que, au-delà du symbole de la Cour suprême, vous savez, où le président américain a réussi à faire nommer 3 juges conservateurs ces 4 dernières années, Donald Trump a aussi nommé ou fait nommer 24% des juges aujourd'hui en activité dans les cours locales ou fédérales.
Et en attendant les résultats définitifs de la présidentielle, Jean-Marc Four, quelles conséquences cette incertitude a-t-elle pour les Américains en ces temps de crise, rappelons-le, sanitaire et économique ?
Pour vous répondre, il faut regarder ailleurs. Il faut regarder les résultats des autres scrutins qui avaient lieu avant-hier à la Chambre des représentants ou au Sénat. Et là, les résultats sont assez décevants pour les démocrates. Ils vont conserver la majorité à la Chambre, mais en perdant quelques sièges. Et surtout, ils vont sans doute échouer à récupérer la majorité au Sénat, détenue par les Républicains. C'est une majorité à 50 sièges. Alors ce matin, on en est à 48-48, mais ça devrait finir à l'avantage des Républicains, soit 52-48, soit 51-49. Ça veut dire que même si Biden décroche la Maison-Blanche, plusieurs réformes, notamment économiques, sur l'aide aux entreprises, la santé, pourraient être bloquées par le Sénat, et notamment par son chef républicain, Mitch McConnell, qui est un partisan de la ligne dure.
Jean-Marc Four, merci beaucoup pour cette analyse détaillée depuis Washington sur les résultats encore partiels de cette présidentielle aux États-Unis. En attendant l'issue de l'élection, les États-Unis sont sortis effectivement hier de l'accord de Paris sur le climat. Un éventuel retour de la première économie mondiale au sein de ce traité international est suspendu à une victoire de Joe Biden. Et quel que soit le résultat de l'élection, Donald Trump a montré qu'il bénéficiait d'une solide base d'électeurs fidèles, que les sondages avaient d'ailleurs sous-estimé. Il faut compter avec eux aujourd'hui et le Trumpisme comptera encore dans les années qui viennent. Bonjour Maxime Tellier.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Culture en Pennsylvanie. Vous avez cherché à comprendre ces électeurs trumpistes sur lesquels le président sortant peut toujours compter.
Oui, alors Donald Trump ne gagnera peut-être pas un second mandat à la Maison-Blanche, mais il a conquis une grande partie des Américains. Ils ont été 68 millions à lui donner leur voix avant-hier. C'est 6 millions de plus qu'en 2016 et le décompte est encore partiel. Alors pour comprendre la solidité de ce socle, j'ai rencontré des électeurs de Trump pour leur demander pourquoi ils le soutiennent. Il y a Sherry, par exemple, elle est retraitée, elle vit avec son mari dans le nord-est de la Pennsylvanie. Il y a un terril et une mine de charbon à deux pas de chez eux. Et voici ce qu'elle dit.
C'est un très bon businessman. Il a une grande bouche, oui, il dit des choses qu'il ne devrait pas dire, mais il est futé. C'est un homme très intelligent. Je le soutiens pour sa politique économique, j'en ai profité. Mais quand il se met à critiquer ses adversaires, à les insulter, je m'en moque, ça compte pas pour moi.
Et Sherry n'est pas la seule à passer outre les mauvais côtés de Trump, qu'elle reconnaît d'ailleurs. Emily a 26 ans. Elle est patronne d'une PME et elle a voté aussi pour le président sortant.
J'ai bénéficié de ses décisions en tant que président. Je suis patronne d'une petite entreprise et mes taxes ont baissé. Et j'aime le fait qu'il dise ce qu'il pense vraiment. Il ne se sent pas obligé d'édulcorer sa pensée. Je crois qu'il est un peu fou, mais il vaut mieux être brutalement honnête qu'un menteur, j'imagine. Je ne suis pas d'accord avec toutes les idées des Républicains, mais j'ai simplement choisi de voter pour mes intérêts. What
benefits me the most? Voilà, les électeurs de Trump sont donc lucides, vous l'entendez, sur les travers du président. Mais l'essentiel n'est pas là pour eux. Une grande partie de la population soutient sa politique protectionniste, nationaliste. Enfin, un candidat qui fait ce qu'il dit une fois élu. L'Amérique d'abord.
America first. Maxime Tellier en direct de Philadelphie en Pennsylvanie est à clé, je le rappelle, dans cette présidentielle américaine où l'équipe Trump multiplie les recours pour barrer la route à Joe Biden vers la Maison Blanche. Donald Trump ou le grand bluff depuis ses débuts en politique. C'est un article à retrouver en une sur franceculture.fr.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu, alors que les États-Unis ont battu un record hier avec près de 100 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures, l'Europe est la région du monde où le coronavirus se propage le plus vite.
Plus de 11 millions de cas recensés, dont la moitié répartis entre la Russie, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. L'Angleterre d'ailleurs se reconfine à partir d'aujourd'hui et pour un mois. Boris Johnson traînait des pieds, il s'y résout finalement face aux chiffres alarmants de contamination. 25 000 cas en 24 heures dans tout le Royaume-Uni. 492 morts, c'est du jamais vu depuis le 19 mai dernier. Le reconfinement était donc inéluctable en Angleterre. Les précisions à Londres de Richard Place.
C'est d'abord le conseil scientifique qui réclamait ce confinement. Il y a déjà un mois et demi, une supplique adressée dans un rapport transmis au cabinet du Premier ministre, écartée. L'opposition, par la voix du leader travailliste, a également réclamé cette mesure ultime face à la propagation du virus et l'inégalité des restrictions selon les zones géographiques. En vain. Les voisins gallois, irlandais, allemands, français ont durci les restrictions. Boris Johnson ne s'y était toujours pas résolu. Après toutes ces alertes, il a donc fini par décréter ce confinement, la mort dans l'âme visiblement, et en fixant déjà la date de sortie.
Ces mesures ultimes pour combattre la hausse du taux d'infection expireront automatiquement le 2 décembre. Nous pourrons alors, je l'espère profondément, redémarrer ce pays, ses entreprises, ses commerces dans la perspective de Noël. Mais ça dépend de nous, de la capacité de chacun à faire sa part aujourd'hui. Je n'ai aucun doute, nous en sommes capables et ensuite nous irons de l'avant.
Boris Johnson s'empresse de préciser que c'est évidemment le Parlement qui fera ce choix au bout du compte. Une ultime précision pour ne pas froisser encore un peu plus des élus réduits dans cette crise au rôle de spectateur et qui s'agacent jusque dans son propre camp. Dans un pays pour lequel Noël est un repère important, sauver le 25 décembre en famille est une priorité pour le gouvernement.
Richard Place, au Royaume-Uni, pays qui compte près de 72 morts du Covid-19 pour 100 000 habitants, près de 58 morts en France pour 100 000 habitants. Et le Sénat termine aujourd'hui à Paris la lecture du projet de loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février prochain. Le texte a été voté et transmis hier soir par les députés en respectant, contrairement à mardi soir, la demande du gouvernement. Avec cette deuxième vague épidémique et le reconfinement, la demande de protection continue d'augmenter en nombre et en coût pour les soignants qui exercent en libéral. 1,50€ la blouse jetable, la boîte de 100 gants à usage unique pour le prix de 6€. C'est beaucoup trop cher, expliquent les professionnels de santé Arnaud Rozac.
Masques, gants, charlottes, blouses, lingettes ou encore chaussons. Pour effectuer leur ronde auprès de leurs patients, les infirmiers libéraux doivent s'équiper de la tête aux pieds en temps de Covid. Et ça coûte cher, très cher même, puisqu'il faut changer d'équipement à chaque visite. Antoinette Tranchida est installée en Isère. Elle est la présidente de l'Organisation nationale des syndicats infirmiers libéraux.
J'en ai eu pour 800€, on va dire, pour un mois, pour trois infirmières. Avant l'épidémie, on achetait à peu près 300 balles de matériel tous les 2-3 mois. C'est à usage unique, tout est à usage unique, y compris le masque. C'est-à-dire que si je vais visiter trois patients pour trois surveillances Covid, eh bien, je vais changer trois fois d'équipement. Une boîte de 100 gants me fait 2 jours là en ce moment.
Certains infirmiers n'ont pas les moyens de changer de protection à chaque visite et donc le risque de se contaminer et de contaminer les patients augmente. Comment expliquer ces prix ? La spéculation, selon Antoinette Tranchida. Ces équipements sont fabriqués en Asie, achetés en grosse quantité, puis revendus par différents prestataires. La demande, elle, continue d'augmenter et l'un des problèmes des infirmiers libéraux, c'est l'impossibilité d'acheter de gros stocks de matériel.
Plus vous achetez, moins c'est cher. Si vous commandez 10 000 boîtes de gants et que vous en commandez 30, c'est pas le même prix, vous comprenez? C'est vraiment une question de négociation avec nos prestataires. Là, pour le moment, il m'a garanti des masques à 1,50€. J'espère que ça continuera, en fait. Jusqu'où ça va aller? On le sait pas. C'est que tout le monde gagne de l'argent, sauf les infirmiers.
Pour Antoinette Tranchida, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. À force d'acheter de plus en plus de matériel, elle et ses collègues vont travailler à perte dans les prochaines semaines.
Le temps de ce jeudi 5 novembre, la grisaille matinale va peu à peu laisser la place au soleil. Au meilleur de la journée, il fera entre 7 et 14 degrés sur la moitié nord du pays, 15 à 23 au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques instants, la question du jour, reconfinement. Quels choix font les autres pays européens ?